parler de Charles Péguy, je me propose de partir de l'œuvre de sa vie, les cahiers de la quinzaine, la revue qu'il a fondée en janvier 1900, alors qu'il avait 27 ans, et animée jusqu'à son départ pour la guerre, en août 1914, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à sa mort, qui survient le 5 septembre 1914 lors d'un engagement militaire au nord-est de Paris. Péguy avait alors 41 ans. Partir des cahiers de la quinzaine, il me semble que cela permet de sortir des images toutes faites et des préjugés liés à la réception de Péguy. Péguy, le patriote mort pour la France, célébré par Maurice Barrès, le grand poète catholique de l'entre-deux-guerres. Si l'on considère que Péguy a donné toute sa vie à cette revue, toute sa vie professionnelle, c'est ainsi qu'il gagnait l'argent nécessaire à faire vivre sa famille, mais aussi toute sa vie de créateur et d'homme engagé, eh bien, il me semble qu'on se donne la possibilité de l'appréhender à partir de ses engagements, dans l'affaire Dreyfus, dans le socialisme, dans une certaine conception de la transmission des humanités, à partir également de ses grands choix de vie, vie familiale, vie professionnelle, le choix de la banlieue, le choix de Paris, les amitiés, les ruptures. Et surtout, on entre dans son œuvre par un chemin qui me semble particulièrement intéressant, qui permet de découvrir comment Péguy a écrit ses textes. Ces textes dont je rappelle qu'ils sont pratiquement tous parus dans sa revue. Péguy n'est pas un auteur qui envoie des manuscrits à un éditeur. C'est quelqu'un qui s'auto-publie et qui s'auto-censure parfois. Et son écriture est bien évidemment imprégnée des conditions dans lesquelles ces textes sont écrits, des textes destinés d'abord aux abonnés, des textes qui se répondent les uns les autres, des textes qui paraissent sur le rythme de la quinzaine. Et tout cela crée une prose et même une poésie bien particulière et d'une très grande originalité. De plus, Péguy a ceci de remarquable, que c'est un écrivain qui est immergé dans les problèmes économiques, industriels, que toute revue, que toute entreprise rend obligatoire. Et on sera peut-être étonné d'entendre Péguy proclamer que toute la question, je cite, est de savoir si on travaille dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, dans l'ordre de l'entreprise ou dans l'ordre de la sécurité. Si on essaie de passer en revue les étapes qui précèdent la fondation des cahiers de la quinzaine et de voir comment ce jeune Charles Péguy naît dans un milieu très humble, dans un faubourg d'Orléans en 1873, a pu devenir un acteur important de la scène intellectuelle parisienne, eh bien, il faut revenir au commencement. Et Péguy nous y aide grâce à un texte qu'il a lui-même écrit alors qu'il avait 25 ans et qui n'a été publié que de façon posthume, et auquel il a donné le titre assez original de « Pierre, commencement d'une vie bourgeoise ». Et dans ses commencements d'une vie bourgeoise, il raconte son enfance à Orléans, entre sa mère et sa grand-mère rempailleuse de chaises, sa découverte de l'école, cet univers qui devait être le sien, dans lequel son âme s'est épanouie, où il a reçu la nourriture qui lui convenait, où il a découvert les humanités. Et en même temps, ce Péguy de 25 ans qui se retourne sur son enfance est capable de discerner ce qui, dans son éducation, dans son parcours, aurait pu l'orienter vers une vie bourgeoise qu'il n'a pas choisie. Alors, cette vie, elle lui est donnée par ses parents. Il ne connaîtra pas son père, qui décède alors que Péguy n'a même pas un an. Il est le premier et seul enfant du couple qui vit avec la mère de Madame Péguy. C'est donc dans une famille monoparentale, pourrait-on dire, que Péguy va grandir, entourée de sa mère et de sa grand-mère, qui sont des femmes laborieuses. Et le ce que Peggy veut nous livrer de son enfance, ça n'est pas du tout une image misérabiliste. Au contraire, il a été un enfant heureux, un enfant éduqué avec beaucoup d'affection, mais aussi beaucoup d'exigence, et la notion de travail, la valeur travail qui est si importante pour lui, il la reçoit dès son plus jeune âge en voyant ces deux femmes travailler du matin au soir autour de lui et qui lui apprennent ce qu'elles savent, y compris la technique du rempaillage des chaises, mais aussi les lettres. Elles l'accompagnent dans son cheminement, elles lui font faire ses devoirs, et Peggy est un homme qui reste infiniment reconnaissant à sa famille, mais aussi très conscient de la richesse de ses origines populaires. Et cela est une constante de sa vie et de son œuvre. Mais sa véritable dimension, il va pouvoir la prendre grâce à l'école. On a cette image, un peu une image d'Épinal, de Peggy, boursier de la République, rendant hommage à ses maîtres, les hussards de la République, si beaux dans leur costume noir. Donc c'est tout à fait véridique. Mais l'importance de l'école, ça va bien au-delà d'un folklore ou d'une valeur républicaine un peu compassée pour Peggy. C'est vraiment la possibilité donnée à l'être humain de s'ouvrir à la culture, de s'ouvrir à la nourriture de l'esprit. Et il le dit en termes particulièrement forts dans une page de L'Argent, qui est un texte qui date de 1913, où il raconte ce que fut son entrée en sixième. Et ce texte est absolument extraordinaire, je ne me lasse pas de le lire, parce que à la fois il souligne ce que l'enseignement classique avait encore et aura toujours d'élitiste. Le lycée était réservé aux enfants de la bourgeoisie, et Peggy n'a pu entrer en sixième que grâce à une bourse municipale. Donc il souligne ce fait, mais ce fait est secondaire, parce que la culture, pour lui, ce n'est pas le moyen d'une ascension sociale. C'est vraiment la nourriture qui convient à l'esprit humain. Donc je vous lis cette page. Le fils de bourgeoisie qui entre en sixième comme il a des bonnes et du même mouvement ne peut pas se représenter ce point de croisement que pouvait être pour moi d'entrer ou de ne pas entrer en sixième. Et ce point d'invention d'y entrer. J'étais déjà parti. J'avais déjà dérapé sur l'autre voie. J'étais perdu quand Monsieur Naudy, avec cet entêtement de fondateur, avec cette sorte de rude brutalité qui faisait vraiment de lui un patron et un maître, réussit à me ressaisir et à me renvoyer en sixième. Après mon certificat d'études, on m'avait naturellement placé, je veux dire qu'on m'avait mis à l'école supérieure d'Orléans. Que d'école, mais il faut bien étudier. Qui se nommait alors école professionnelle. Monsieur Naudy me rattrapa, si je puis dire, par la peau du cou, et avec une bourse municipale, me fit entrer en sixième à Pâques, dans l'excellente sixième de Monsieur Guerrier. « Il faut qu'il fasse du latin, » avait-il dit. C'est la même forte parole qui aujourd'hui retentit victorieusement en France, de nouveau depuis quelques années. Ce que fut pour moi cette entrée dans cette sixième à Pâques, l'étonnement, la nouveauté devant Rosa Rosae, l'ouverture de tout un monde, tout autre, de tout un nouveau monde, voilà ce qu'il faudrait dire. Mais voilà ce qui m'entraînerait dans des tendresses. Le grammairien, qui une fois la première, ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de Rosa Rosae, n'a jamais su sur quel parterre de fleurs il ouvrait l'âme de l'enfant. Donc voilà en quels termes lyriques, magnifiques, Peggy reconsidère son entrée en sixième comme sa véritable naissance. Il s'agit d'ouvrir l'âme, mais il s'agit même de ressusciter après avoir été perdu par une orientation qui l'aurait empêché d'être lui-même et de vivre sa vie d'écrivain. De fait, Peggy va suivre un parcours scolaire tout à fait exemplaire. Après le lycée, il rentrera en classe préparatoire pour préparer le concours de l'école normale supérieure. D'abord au lycée Lacanal à Sceaux, puis à Paris au lycée Louis-le-Grand, époque où il est pensionnaire au collège Sainte-Barbe, qui a un internat et où il nourra de très précieuses amitiés. Et enfin, en 1894, c'est la réussite au concours d'entrée de l'école normale supérieure. Donc, parcours magnifique d'un boursier de la République qui a su parvenir au sommet de la méritocratie intellectuelle. Parcours sur lequel Peggy ne se fait pas trop d'illusions. Il a des phrases pleines d'une autodérision qui fait vraiment réfléchir quand il se tourne vers les différentes étapes qui l'ont mené du Faubourg Bourgogne jusqu'à la montagne Sainte-Geneviève, et cela très tôt. Il écrit en effet « Tous ces républicains sincères et braves gens s'imaginaient que la démocratie consistait en ce que les fils du peuple devinssent par une série de concours et d'éliminations une aristocratie commandante. Que le fils d'un ouvrier mécanicien fût reçu à Saint-Cyr, comme on osait nommer familièrement l'école spéciale militaire, c'était tout à fait bien. Qu'un fils d'instituteur fût reçu à Polytechnique, c'était mieux encore. Et que le fils d'une rempailleuse de chaises fût reçu à l'école normale supérieure, c'était la gloire même. » Il écrit cela dans un texte de 1899 qui s'appelle « Le ravage et la réparation » et il ajoute qu'il voit dans ses réactions la perversion de l'esprit démocratique. De fait, ce n'est pas du tout à une vie bourgeoise que ses études brillantes et ses réussites au concours vont introduire Peggy. Car dès ses années de classe préparatoire puis d'études supérieures, Peggy entre en militantisme. C'est en Cagne, à Lacanal, au lycée Lacanal, qu'il encourage ses camarades à se cotiser pour soutenir les mineurs de Carmaux en grève. C'est dès son arrivée au quartier latin qu'il va militer en faveur du capitaine Dreyfus par des articles, par la participation à des manifestations. Et une fois à l'école normale supérieure, qui est déjà un haut lieu du socialisme, il se lie avec des personnalités comme Lucien R, le bibliothèque de l'école, et il a une activité de jeune militant tout à fait importante et de militant d'extrême gauche. C'est dans ce contexte que Peggy décide d'engager sa vie entière au service de la cause socialiste, en laquelle il voit la solution pour lutter contre le mal universel. Peggy, alors qu'il est encore élève à l'école normale supérieure, s'est lancé dans une première œuvre consacrée à Jeanne d'Arc, qui est figure tutélaire de la ville d'Orléans, une figure qu'il admire énormément pour son engagement solitaire, et donc il lui consacre un long texte sous forme dramatique et poétique, et la dédicace de ce premier texte qui sera publié à compte d'auteur, elle est tournée vers tous ceux et toutes celles et tous ceux qui auront lutté contre le mal universel et qui auront connu le remède, à savoir l'établissement de la République socialiste universelle. Voilà, donc on a déjà chez ce jeune homme plein de passion pour la justice, beaucoup d'éléments qui vont se développer tout au long de son existence. Et beaucoup d'éléments qui peuvent paraître contradictoires, un culte pour Jeanne d'Arc, mais qui est relié à l'établissement de la République socialiste universelle. Donc, ce jeune Peggy est prêt à renoncer non seulement à une vie bourgeoise, mais même à une vie de fonctionnaire, à une vie de professeur, à laquelle ses études l'auraient conduite, et il décide de démissionner de l'école normale supérieure et d'engager l'argent reçu de sa femme lors de son mariage pour se lancer dans l'action socialiste en créant tout d'abord une librairie. Le premier choix, le premier acte public d'engagement de Peggy, ça sera de créer une librairie qu'il fait appeler du nom d'un camarade à la librairie, Georges Bellet, parce qu'il n'avait statutairement pas le droit de lui donner son propre nom. Elle se tenait rue Cujas, et on va bientôt accoler une plaque à cette adresse, 17 de la rue Cujas. Ça sera réalisé, je pense, d'ici la fin de l'année 2019. Donc, dans cette librairie Georges Bellet, Peggy projette de éditer et vendre et diffuser des publications socialistes, les siennes et celles d'autres auteurs. Notamment, il commercialisera un recueil d'articles de Jean Jaurès qui s'appelle « Action socialiste ». Bon, mais cette première affaire va tourner court, et Peggy va devoir abandonner ce projet à la suite de problèmes financiers et de mésentente avec le groupe qui s'était réuni autour de lui pour faire marcher cette librairie, et qui comprenait notamment Lucien R. et Léon Blum. Ces dissensions, elles ne sont pas seulement d'ordre organisationnel, pourrait-on dire, elles sont aussi d'ordre idéologique, et c'est pour cela qu'elles vont aboutir très rapidement à une rupture. En effet, en décembre 1899, se tient un congrès socialiste à la salle Japy à Paris, et lors de ce congrès, différentes motions sont votées, dont une qui concerne la liberté de la presse et qui stipule que les publications d'obédience socialiste devront être à l'unisson. Et Peggy perçoit cette directive comme une véritable limitation de la liberté de la presse, qui le met, avec laquelle il n'est pas du tout d'accord. C'est la première fois qu'il se sent vraiment en opposition franche, et il va le dire à ses camarades avec lesquels il s'est engagé donc dans sa librairie maison d'édition. Ils n'auront pas le même point de vue, et Peggy décide de partir. C'est lui qui décide de se retirer de l'affaire et de fonder sa revue à lui, dans laquelle il sera seul maître à bord, et il pourra faire vivre le socialisme tel que lui le comprend, un socialisme de dialogue et d'ouverture qui ne marche pas forcément selon une ligne. Donc ça, c'est l'origine des Cahiers de la Quinzaine, revue qu'il fonde tout seul au tout début de l'année 1900. À ce moment-là, Peggy a donc largué certaines amarres. Il a démissionné de l'École normale supérieure. Il s'est marié, il a un enfant. Bon, Peggy aura 3 enfants et un 4e qui verra le jour après sa mort, puisque sa femme était enceinte au moment où il a été tué. Donc, c'est un moment de sa vie où Peggy fait ses choix, et des choix qui ne l'engagent pas tout seul, mais qui engagent la famille qui est en train de se créer. Alors, cette revue, Les Cahiers de la Quinzaine, ça va effectivement être la revue de Peggy, dans laquelle il fera paraître tous ses écrits, mais c'est également un lieu de débat où d'autres auteurs sont publiés sur des sujets divers, et où, bien souvent, les textes se répondent, et il y a tout un corpus tout à fait passionnant qui fait que les Cahiers de la Quinzaine sont un conservatoire des grands débats culturels et politiques qui ont pu agiter la Belle Époque. Peggy entend tout de même donner un programme à cette revue. Et ce programme, il l'exprime dans le tout premier numéro, à travers un texte qu'il intitule « Lettres du provincial », évidemment en référence à Pascal, et dans cette lettre, il met en scène un lecteur ami de province qui s'adresserait à Peggy pour lui demander ce dont il a besoin pour se nourrir sur le plan intellectuel. Et donc, il a besoin de documents qui soient vrais. L'exigence de vérité est vraiment à la source de la création des cahiers de la quinzaine. Dire bêtement la vérité bête, tristement la vérité triste. Il s'agit de dire la vérité que l'on sait. Et cette exigence de vérité que Peggy met au premier plan, elle s'inscrit contre ce qu'il perçoit dans la presse bourgeoise, comme il la désigne, à savoir manipulation de l'opinion. C'est ce qu'il a pu observer tout au long de l'affaire Dreyfus, et il est d'une très grande sévérité vis-à-vis du petit journal. C'était déjà les débuts de la presse de masse, avec une orientation, une manipulation des esprits, au lieu d'une vraie recherche de la vérité et de la justice. Et dans les cahiers de la quinzaine, Peggy veut prendre le contre-pied. Il a aussi des idées très précises sur la façon dont une revue doit subsister économiquement. Il refuse absolument la publicité. Il souhaite que tous ceux qui travaillent à la revue soient payés de la même façon, reçoivent le même salaire. Bon, en fait, pratiquement personne n'est payé, donc ça simplifie. Il entend vraiment faire de cette revue quelque chose de différent sur la scène intellectuelle. Ce qui est très important aussi pour lui, c'est d'en faire un moyen d'enseignement. Ça, c'est présent très tôt chez Peggy. Il renonce à la carrière de professeur d'université, mais il ne renonce pas du tout à l'idée d'enseigner. Et il le dira, il écrira, « Nos cahiers font de l'enseignement supérieur ». L'enseignement supérieur, c'est celui qui va directement au savoir et ne fait pas de vulgarisation, ne fait pas de pédagogie, mais donne du savoir libre à ceux qui le reçoivent de le discuter ou de l'accepter ou non. Donc au cahier de la quinzaine, Peggy aura des collaborateurs. Il fera intervenir des auteurs, il s'adressera à eux pour recevoir leurs textes. Il recevra des textes, c'est donc une œuvre collective. Et à ce titre, je voudrais vous lire un petit texte dans lequel Romain Rolland décrit ce qu'est les cahiers de la quinzaine. C'est tiré d'une lettre qu'il avait écrite à une de ses amies. Et Romain Rolland, qui a beaucoup publié dans les cahiers, lui décrit ainsi l'entreprise de Peggy. Les cahiers de la quinzaine, vous me demandez leur but. Vous vous en rendriez compte facilement en parcourant un de leurs catalogues. Vous y trouveriez d'abord toute une série qu'on pourrait intituler « Des races opprimées ». Il y a bien une dizaine de cahiers consacrés à la Finlande, à l'Arménie, à la Macédoine, à la Révolution russe, aux Juifs de Kishinev, aux Juifs de Roumanie, au Congo belge, etc. Chacun de ces cahiers est fait par un spécialiste qui a été dans le pays. Jamais de déclamation littéraire. Puis, il y a une autre série, Institutions démocratiques françaises, Université populaire, Théâtre du peuple, les discours de Jaurès, les articles de Clémenceau ou de Picard, etc. Puis, Chroniques ou pamphlets politiques de Peggy, qui est un socialiste et qui fut un des plus ardents dreyfusistes, mais qui n'en est que plus libre pour dénoncer les compromissions du socialisme. Puis enfin, les œuvres littéraires. Bon, je trouve que cette description est assez juste pour donner une idée des différents types de sujets traités qui sont nombreux, variés, mais tous orientés vers une attention au problème du temps et le désir d'œuvrer à les résoudre dans le sens de la justice. Mais bien sûr, ce qui va nous retenir davantage, c'est la contribution de Peggy lui-même à cette revue. À la fois Peggy l'animateur, Peggy qui fait vivre, qui s'intitule lui-même le gérant de la revue des Cahiers de la Quinzaine, et Peggy l'écrivain. Comment parvient-il à produire des textes, produire une œuvre dans ce cadre si particulier de la revue? Et comment peut-être aussi n'y parvient-il pas tout à fait? Donc cette revue, c'est aussi pour Peggy une tribune et le lieu à partir duquel il va mener ses combats. Alors, c'est un peu David contre Goliath, c'est la petite boutique des Cahiers de la Quinzaine, installée 8 rue de la Sorbonne, face à l'imposante université qu'il va souvent prendre pour cible dans ses écrits. C'est la classe à partir de laquelle Peggy s'exprime sur tous les points qui lui sont chers. Alors, les premières séries des cahiers, c'est-à-dire les numéros qui correspondent aux deux premières années, sont pratiquement complètement orientées vers la discussion avec le socialisme et la mise en garde contre ce que Peggy perçoit déjà comme des tentations totalitaires, politiciennes, qu'il veut absolument dénoncer afin de sauver son idéal, son socialisme idéal, des dangers qui le menacent. Alors, ces mises en garde prennent la forme de textes assez courts, qui sont des petites fictions, si l'on peut dire, dans lesquelles interviennent des personnages, donc Peggy lui-même, et puis Peggy et ses doubles. Alors, il y a son cousin fumiste d'Orléans, il y a le docteur socialiste révolutionnaire, il y a l'historien Pierre Deloire, le philosophe Pierre Baudouin, et toutes ces voix sont mises en scène par l'auteur, Peggy lui-même, de sorte que le refus du monolithisme, de la pensée unique, de la doxa qui avait été à l'origine de sa dissidence et de la création des Cahiers de la Quinzaine, Peggy le met en scène dans sa propre façon d'écrire. Il n'impose pas un point de vue, il met en scène de petites, de véritables scénettes au cours desquelles les échanges font surgir le sens qu'il veut exprimer, ce sens, ce casse-cou, c'est le titre de ses textes, qu'il veut adresser au socialisme en train de devenir un parti politique et une idéologie. Alors, cela donne des textes vraiment à lire et à relire, méconnus, mais qui sont pleins, qui sont à la fois truculents et d'une pertinence extrême. Par exemple, dès juillet 1900, on a un texte qui s'appelle « Réponse brève à Jaurès », dans lequel Peggy s'élève contre la notion d'art socialiste. Ces mots de Jaurès, ce que pour nous, dans notre conception socialiste, représente l'idée de l'art, n'ont pour moi aucun sens. Ou bien, s'ils avaient un sens, ils donneraient à penser que nous avons comme socialistes une représentation particulière de l'art. Au lieu que nous avons une idée de l'art, uniquement parce que nous sommes des hommes. Comme socialistes, nous travaillons de toutes nos forces à l'affranchir, l'art, de toutes les servitudes. La révolution sociale nous donnera la libération de l'art, mais non pas un art socialiste. Donc Peggy écrit ça en juillet 1900. Si ces paroles avaient été reçues, comprises, méditées, eh bien peut-être que le cours du XXe siècle en aurait été différent. De la même façon, dans « Pour moi », en janvier 1901, il s'élève contre la propagande. Dans « Casse-cou », en mars 1901, contre le dogmatisme et la pensée unique. Et toutes ces mises en garde, comme je le disais, sont émises à travers un mode qui, bien sûr, est nouveau, peut paraître léger, mais qui n'en est que plus percutant. Et il faut mettre en valeur la série des grippes que Peggy publie dès le printemps 1900. De la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe, où déjà cette alliance tout à fait étrange, tout à fait originale d'humour, de culture, de métaphysique et de souci du réel qui fait vraiment le génie de Peggy est présente. Le rappel de Pascal et de sa prière pour le bon usage des maladies, mise en vis-à-vis avec la grippe dont Peggy est lui-même accablé, le jeu avec le biographique et puis le métaphysique, la question de l'enfer, la question du mal, le souci du réel et du travail lent, moléculaire et définitif que Peggy s'efforce de réaliser par quinzaine, ce sont pour moi parmi les plus beaux textes de Peggy, d'un Peggy jeune qui sait ce qu'il veut, qui n'a peur de rien, qui est d'emblée dans la plus grande familiarité avec Pascal, avec Renan, avec tous les auteurs qu'il convoque pour faire émerger sa pensée dans la plus grande modestie, parce que ces textes restent des textes où l'autodérision est toujours présente. Viendront ensuite toute une série de textes qui seront orientés par le thème du monde moderne, la critique du monde moderne. Il y a là comme un massif dans les textes parus sous la plume de Peggy dans les cahiers de la quinzaine à partir de 1904. Peggy part en guerre contre la Sorbonne de l'autre côté de la rue, contre ce qu'il appelle le parti intellectuel tenu par des personnalités qui sont à la fois les grands universitaires, qui sont à la fois les directeurs des grandes écoles, les ministres ou les conseillers des ministres. Et l'enjeu de ce nouveau combat, c'est celui de la transmission des humanités. Quand Peggy décide de faire du monde moderne sa cible, ce n'est pas du tout pour dénoncer les machines, la technique ou que sais-je, encore moins les robots qui n'existent pas encore. Ce qu'il dénonce, c'est une façon de connaître, c'est une façon de transmettre le legs de culture des civilisations passées. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et dans Zangville, qui est peut-être le texte inaugural de cette campagne que Peggy va mener par ses écrits contre le parti intellectuel, il a cette formule que je trouve particulièrement profonde. Or, l'idée moderne, la méthode moderne, revient essentiellement à ceci. Étant donné une œuvre, étant donné un texte, comment le connaissons-nous ? On voit bien que le questionnement de Peggy sur le monde moderne et sa condamnation, le procès qui lui intente, repose vraiment sur la question du savoir, de la connaissance, à la fois de l'objet de la connaissance et de la manière dont on le traite. Et ça, je pense que c'est des questionnements qu'il faut avoir encore aujourd'hui. Tout n'est pas dans savoir manier un ordinateur. Il y a quand même la question des contenus et de la manière dont on les analyse et dont on les transmet. Et à cette époque où la critique littéraire, l'histoire littéraire se laisse fasciner par les méthodes scientifiques, parce que c'est ça en fait que Peggy a en ligne de mire, eh bien il rappelle que les grandes œuvres, les grands textes ne sont pas simplement matière à disséquer, matière à analyser selon des grilles, que la méthode ne peut pas l'emporter, que ce qui l'emporte, c'est le sens, c'est la forme, et que c'est cela qu'il faut transmettre, et que cela ne peut pas se transmettre comme les sciences naturelles. Alors, ces idées-là, il va les exprimer dans des textes, notamment trois textes qu'il intitule « Situation », les situations faites aux partis intellectuels dans le monde moderne, où il s'en prend notamment à Renan et à Taine, grande figure intellectuelle qu'il appelle les pères du monde moderne. Mais dans cette période, Peggy produit beaucoup de textes qu'il ne publie pas. C'est l'époque des textes mis de côté. Brunetière, Un poète l'a dit, Par ce demi-clair matin. Ces textes ne seront connus que largement après sa mort. C'est pourtant là qu'on trouve des pensées très vives sur ce que doit être la façon de considérer les œuvres, et ce sont aussi des textes extrêmement polémiques qui s'en prennent aux personnalités de la Troisième République qui tiennent l'université, et c'est peut-être aussi pour cela que Peggy ne les publie pas tous. C'est aussi une période où beaucoup d'autres auteurs sont publiés dans les cahiers de la quinzaine. Dans les toutes premières séries, Peggy prenait toute la place. Il lançait sa revue et il en était le principal, non seulement le principal, le seul animateur, mais aussi celui qui donnait le plus de contenu. Dans cette période de la maturité, si l'on peut dire, il a beaucoup de collaborateurs et beaucoup de numéros sont confiés aux frères Tarot, à Romain Roland, André Suarez, Félicien Chalet, Georges Sorel. Ce sont des noms qui reviennent très souvent dans le catalogue des cahiers durant ces années. À partir de 1909, Peggy est en crise, les cahiers de la quinzaine sont en crise et il me semble qu'il y a là une césure importante, aussi bien pour l'histoire de la revue que dans l'évolution personnelle de Peggy et dans ce qui deviendra un tournant majeur de sa production littéraire. Les affaires vont mal, il n'y a pas assez d'abonnés, Peggy se sent incompris, il souffre de plus en plus de son isolement. Sur le plan personnel et familial, c'est également très difficile. Il vit un amour malheureux, interdit, impossible, avec Blanche Raphaël, une jeune femme qui est la sœur d'un de ses collaborateurs des Cahiers de la Quinzaine et qui fréquente la boutique des Cahiers, une jeune intellectuelle, professeur d'anglais au Collège Sévigné, dont Peggy s'éprend à sa propre surprise. Ce n'est pas du tout dans ses idées, c'est un homme prude, un homme austère et qui a une haute idée de la morale personnelle et donc il est infiniment perturbé par cette passion qui s'est emparée de lui et à laquelle il ne succombe pas mais à laquelle il succombe tout de même puisqu'il éprouve ses sentiments et ce désir pour Blanche. Donc tous ces éléments font qu'une grande lassitude, un profond découragement s'abattent sur lui. Et donc 1909, c'est l'année d'un très beau cahier, très pathétique, qui s'appelle « À nos amis, à nos abonnés », où Peggy fait le point. Et son constat, c'est que nous sommes des vaincus. Je vous lis quelques lignes pour vous montrer l'intensité de ce découragement, de ce premier bilan. Donc voici ce que Peggy écrit dans ce cahier à nos amis, à nos abonnés. Ne nous félicitons pas, nous sommes des vaincus. Le monde est contre nous. Et on ne peut plus savoir aujourd'hui pour combien d'années. Tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu, les mœurs et les lois, le sérieux et la sévérité, les principes et les idées, les réalités et le beau langage, la propreté, la probité de langage, la probité de pensée, la justice et l'harmonie, la justesse, une certaine tenue, l'intelligence et le bon français, le bel ouvrage, tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu, recule de jour en jour devant une barbarie, devant une inculture croissante, devant l'envahissement de la corruption politique et sociale. Donc Peggy doute, Peggy dresse ce constat d'échec extrêmement sévère. Il est en proie à une crise de foi, il avait une fragilité de ce côté-là, à une crise du cœur. Il est aussi en proie à un profond chamboulement intérieur, si l'on peut dire, qui va déboucher sur le retour à la foi chrétienne. C'est en effet dans cette période-là qu'il reconnaît auprès de Jacques Maritain et de son ami Joseph Lotte qu'il se sent redevenu catholique. C'est tout à fait intéressant de voir comment Peggy retrouve la foi à la faveur d'une crise, d'une crise passionnelle, d'une crise économique, les affaires marchent mal, d'une crise physique, il est malade. Et si l'on ne connaît pas d'événement qui ait pu déclencher ce retour à la foi, eh bien, c'est tant mieux. Parce qu'on ne peut pas parler à proprement, on ne peut pas parler de conversion en ce qui concerne Peggy, en se référant ni à un événement, ni à une influence de quelque directeur spirituel. Il s'agit bien d'une crise, il s'agit bien d'un retour sur soi, d'un approfondissement. Le terme que Peggy emploiera, c'est celui-ci, c'est celui d'approfondissement. Il contestera tout à fait le terme de rupture. Au contraire, pour lui, c'est en allant plus loin, c'est en traversant l'obstacle de cette crise et c'est en retrouvant la cohérence de ses engagements, c'est en dépassant ce désespoir qui s'est abattu sur lui, que sa foi se révèle et se révèle à lui-même. Et on a de cela le plus beau des témoignages dans des pages qu'il écrit à ce moment-là, 1909, mais qu'il laisse de côté et que l'on publiera bien plus tard, des décennies après sa mort, c'est le texte le plus tardivement publié, Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle. Et dans ces pages, Peggy se met en scène exactement comme il l'avait fait, mais pas du tout dans le même ton. Il se met en scène malade, comme il l'avait fait dans les grippes. Mais là, c'est pas la grippe. Et à la faveur de cette maladie, il ouvre l'évangile et il relit le récit de la Passion dans saint Matthieu. Et de se confronter dans l'état où il est à ce Christ de l'agonie, ce Christ du Mont des Oliviers, ce Christ du Calvaire, c'est là qu'a lieu la véritable rencontre. C'est là que Peggy est rejoint par ce Dieu qui a craint la mort. Dieu même a craint la mort. C'est un hémistiche de Corneille que Peggy introduit dans son texte. Et le cri de Jésus sur la croix et l'angoisse de Jésus au jardin des Oliviers sont ce qui le fait entrer de plein pied dans le mystère de l'incarnation. Et cela, c'est le christianisme de Peggy, celui qui ne va cesser d'approfondir et d'exprimer dans tous ses écrits postérieurs à cette date de 1909, donc de façon publique et sur des modes très différents. La poésie qui va émerger à partir de ce moment-là, mais également la prose et toujours la polémique, une prose toujours engagée, une prose philosophique. Donc il faut se garder de penser que Peggy Chrétien, c'est le Peggy poète. Non, Peggy Chrétien, c'est Peggy Chrétien à partir d'un certain moment et cette dimension sera présente dans tous ses textes, prose et poésie mêlées jusqu'au bout. Peggy reste quelqu'un qui pense, qui lutte et dont la foi est une foi engagée dans le débat, engagée dans le questionnement et tout à fait, libre et rebelle. Donc, à partir de cette date, il ne faut pas non plus avoir le fétichisme des dates, mais de cette période, on va dire, l'ambivalence de la vocation de Peggy écrivain se fait jour de plus en plus clairement. Cette ambivalence entre, d'une part, le journaliste, l'homme de revue, toujours à l'écoute des débats de son temps, mais aussi des malheurs de son temps, hein, on l'a vu dans la description de Romain Rolland, les cahiers de la quinzaine ont toujours été à l'écoute de toutes les luttes, de toutes les revendications, de toutes les injustices sur la question coloniale, sur la question de l'antisémitisme, sur d'autres questions. Et puis, la tentation des livres épais. Et c'est intéressant de rappeler que dès 1900, dès les tout débuts des cahiers, dans une de ces scénettes que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle « Entre deux trains », eh bien Peggy imagine qu'il reçoit la visite d'un de ses amis, d'un de ses doubles, le philosophe Pierre Baudouin, qui lui fait des reproches, qui lui dit « Mais pourquoi t'es-tu fait journaliste ? Car tu es journaliste, pourquoi perds-tu ton temps à relayer toutes ces horreurs, tous ces malheurs ? Tu te fais complice. Ce qui change réellement le monde, ce sont les livres épais. Faisons des livres épais. » Et donc ce tiraillement entre l'écoute de l'actualité, la réaction, la présence au monde et l'étude, la lecture et l'écriture de livres épais, Peggy en avait conscience au tout début de son aventure intellectuelle. Par la suite, il le vit en lui-même et vers la fin, dans les dernières années de son existence, le format de la revue n'est plus tout à fait adapté à ce qu'il porte en lui et aux grandes œuvres qu'il va livrer à partir de 1910, qui sont toujours publiées dans la revue, mais qui prennent trop de place, toute la place, qui suscitent des incompréhensions de la part des abonnés, des rivalités avec certains auteurs, et qui, d'une certaine façon, ne demandent qu'à s'émanciper de ce cadre de la revue. Mais en fait, cela ne se fera pratiquement pas du vivant de Peggy, même si pour certains textes comme Les Mystères, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc en 1910, et puis les deux mystères qui suivront, le mystère des saints innocents et d'abord le porche du mystère de la deuxième vertu, ils seront publiés dans les cahiers de la quinzaine et en parallèle chez un éditeur, pour essayer de toucher un public un peu plus vaste. Donc il y aura quand même cet élargissement. Mais la revue reste le lieu privilégié, pas tout à fait adéquat, néanmoins le lieu où Peggy est sûr d'être accueilli, puisque c'est lui qui décide. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces années si prolifiques, si fécondes, de 1910 à 1914, Peggy se fait le défenseur de son œuvre. Ça a presque un côté pathétique, mais si on prend un texte passionnant à tous égards, comme un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, donc ça c'est un très grand texte polémique de Peggy, un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, à l'origine, c'est une attaque, une riposte, contre une critique du mystère de la charité de Jeanne d'Arc qui était parue dans la revue hebdomadaire, une revue importante de l'époque, dirigée par ce monsieur Laudet. Donc Peggy n'est pas content de ce qui a été écrit et il réplique férocement. C'est vraiment de la polémique violente. Et en même temps, dans ce texte, il y a des pages d'une profondeur extraordinaire sur la sainteté, sur le rapport entre le privé et le public. C'est un texte extrêmement dense. Et Peggy, non seulement exécute l'auteur de la critique malveillante, mais il fait la promotion, si je puis dire, pas dans un sens publicitaire évidemment, mais il explique ce qu'il fait, ce qu'il a voulu faire dans ses mystères. Donc dans le Laudet, parle du porche du mystère de la deuxième vertu, du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, et il annonce le prochain, le mystère des saints innocents. Et également dans la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, qui est le texte que Peggy a laissé inachevé au moment de partir à la guerre, il revenait également sur ces mystères. Donc il y a une véritable imbrication entre les textes de prose et les textes poétiques, et les cahiers de la quinzaine sont le lieu où Peggy non seulement publie ses textes, mais se défend, s'explique, se justifie, s'offre complètement en tant qu'écrivain, comme il ne peut pas le faire ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment très original comme manière de produire une œuvre. Donc, il me semble qu'on peut dire que les cahiers de la quinzaine auront été pour Peggy à la fois un cadre contraignant, c'est certain, et en même temps un cadre qui lui aura permis d'élaborer une écriture très particulière et dont nous bénéficions encore aujourd'hui quand nous le lisons en dehors évidemment des cahiers. Nous le lisons maintenant dans des éditions où ses œuvres ont pris leur autonomie, si l'on peut dire. Mais elle reste imprégnée de ce qui fut leur berceau. Alors, quand je parlais de cadre contraignant, il est certain que ce n'était déjà pas si évident de produire une œuvre tout en assumant le fonctionnement d'une revue. Et ça, Peggy en avait parfaitement conscience, et dans un premier temps, il le revendiquait. J'écris utilement de modestes cahiers. Moi aussi, j'aimerais mieux faire des œuvres plus considérables, sinon plus sereines. J'aimerais mieux faire des nouvelles, des contes, des romans, des dialogues, des poèmes ou des drames. Et je crois que je n'en suis pas incapable. Mais je fais ce que je dois et non pas ce que j'aime le mieux. Donc ceci, Peggy l'écrit en 1902 dans un texte des cahiers qui s'appelle Personnalité, où voilà, il avoue que, bien sûr, la figure du grand écrivain qui écrit des drames et des romans et des poèmes, il aimerait bien pouvoir s'y identifier, et il croit qu'il n'en est pas incapable, mais il répond à un autre objectif, un objectif d'utilité et d'urgence, la notion de devoir est très importante. Je dois faire ce que je dois et non pas ce que j'aime le mieux. Dans cette contrainte assumée, acceptée, Peggy va élaborer une écriture tout à fait extraordinaire. Et ça fait partie des choses qui sont, je ne dis pas à redécouvrir, mais tout simplement à découvrir. Parce que Peggy, c'est une mine, c'est un auteur qui est encore inexploré de mon point de vue, alors qu'on a déjà tellement dit et tellement écrit sur lui. Mais il faudrait peut-être maintenant qu'on le lise. Donc, ce Peggy, qui ne passe qu'un petit tiers de son temps à écrire, hein, je ne m'accorde d'écrire que quand j'ai assuré le travail de gérance et le travail de fabrication, je passe un grand tiers de mon temps à l'établissement industriel des cahiers, je passe un petit tiers de mon temps à l'établissement commercial des cahiers. Le tiers qui me reste, j'écris. J'écris ce que je peux, comme je peux. Eh bien, comme il peut, il écrit pour ses abonnés. Il écrit en se mettant souvent au second plan, derrière l'auteur auquel le cahier est confié. Il écrit des avertissements, des avant-propos, des commentaires. Il écrit de côté, là où il trouve une petite place. Et de cette façon, il produit une pensée, qui est ce que j'appelle une pensée par la bande, qui accepte d'être en position seconde, subalterne, de commentaire, et qui en acquiert une force particulière. Parce que justement, il faut que Peggy trouve sa voie, trouve le chemin, trouve la place pour exprimer ce qu'il a à exprimer, sans d'emblée prendre celle des autres. Et alors, cela va, sur le plan de l'écriture, se traduire par une forte implication personnelle. Peggy dit « je », plus souvent il dit « nous », mais il est très présent, très engagé dans ce qu'il écrit. Il écrit pour des lecteurs, il écrit pour ses abonnés, il écrit pour nous qui le lisons aujourd'hui, qui sommes sollicités à travers le jeu des pronoms. Il y a un « nous », mais il y a toujours un « vous » en face. Et il saisit la chance qu'il lui est donnée de s'exprimer, la chance que lui laissent les autres textes publiés dans sa revue. Et cela n'en donne que plus de portée à ces textes et une portée, je dirais rétrospective, parce que les témoignages de l'époque, et Daniel Halévy, ami et collaborateur de Peggy, ne le cache pas, les témoignages de l'époque disent que même parmi les abonnés, peu lisaient les avertissements de Peggy, peu lisaient ces textes par la bande, ces textes de commentaires, d'introduction. On allait directement à ce qui faisait le corps du cahier. Donc c'est nous qui pouvons maintenant goûter ces textes pleinement et les recevoir de cette place que Peggy s'est accordée. Un génie modeste, voilà, c'est comme ça que je le caractériserai. Et je voudrais donner quelques exemples de ces très grands textes de Peggy qui sont apparus dans les cahiers comme de simples commentaires. Par exemple, de Jean Coste, 1902. Titre un peu énigmatique. Jean Coste, c'était le titre d'un roman d'un certain Lavergne que Peggy avait publié dans ses cahiers de la quinzaine et qui racontait les conditions de vie des instituteurs. Donc une espèce de roman naturaliste qui dépeignait sous un jour très sombre la condition d'instituteur dans un village. Et une polémique était née parce que ses anciens amis socialistes avaient reproché à Peggy de publier de la littérature et non pas de la propagande. Donc Peggy réplique dans son « De Jean Coste » où il explique justement que pour lui, la littérature, c'est ça qui rend compte de la vie et qui peut toucher le lecteur bien plus que ce qu'on appelle propagande. Mais surtout, dans ce texte, Peggy produit des pages extraordinaires sur la distinction entre misère et pauvreté, sur la fraternité, la place qu'a cette valeur dans la devise républicaine et qu'il met bien avant l'égalité. Ça, c'est du grand Peggy. C'est du grand Peggy, mais voilà, qui se donne à lire discrètement. Autre texte très important, l'avertissement au cahier Mangazarian. Alors là, c'est vrai que je mets au défi quiconque de savoir ce que peut contenir un texte intitulé « Avertissement au cahier Mangazarian », donc texte de 1904. Eh bien, donc ce Mangazarian était un auteur donc, que publie Peggy, et il en profite pour nous donner des pages sur l'anticléricalisme des radicaux, sur la persécution des minorités, sur la manipulation des foules, le bouc émissaire. Donc tout texte, toute page que l'on pourrait dire prophétique, qui résonne très fortement et que modestement Peggy fait passer à travers un avertissement. Donc dans cette période, ce qui correspond à celle où Peggy publie assez peu, pas mal d'inédits, mais met en valeur beaucoup d'auteurs, il y a tout de même des pages de lui d'une immense valeur, d'une immense portée qu'il nous donne de cette façon. Donc les cahiers de la quinzaine ont suscité l'œuvre de Peggy, ont fortement teinté son écriture, et en même temps, ils se sont avérés un cadre trop étroit pour quantité de textes qui n'ont pas pu y trouver place. Peggy est mort prématurément, il avait 41 ans. On peut penser que les textes qu'il avait laissés de côté, et plus encore ceux qui étaient inachevés, il aurait su trouver la forme définitive qu'il souhaitait pour eux. Il nous les a laissés en l'état et charge à nous de les donner à lire, de les rendre lisibles en dehors de ce cadre de la revue dans lequel ils n'ont de fait jamais été insérés. Alors c'est une tâche ardue à laquelle se sont attelés certains dès le départ et ça continue jusqu'à aujourd'hui, ça ne finit pas puisque quand on s'empare de textes d'un auteur décédé eh bien, on ne sait jamais si ce qu'on fait est ce qu'il aurait voulu. Donc, on peut être amené à refaire, à proposer d'autres façons d'éditer les textes. Mais cela, en quelque sorte, Peggy l'avait prévu. Il l'avait prévu dans des pages d'un de ses grands inédits sur la lecture. Alors, j'hésite à vous donner le titre de ce texte parce que, justement, on a là un exemple d'œuvre en chantier qu'il nous faut soit accepter comme telle, soit achever. Il s'agit des dialogues de l'histoire. Peggy a laissé deux dialogues qui n'ont rien de dialogique, mais c'est ainsi qu'il les désignait. Dialogue de l'histoire de l'âme charnelle et le dialogue de l'histoire et de l'âme païenne. En fait, ces textes, le second reprend le premier, donc il les a imbriqués sans donner une forme définitive. Donc il est assez difficile pour l'éditeur de savoir ce qui appartient à l'un et à l'autre. Et les choix ont été divergents au cours des décennies qui ont suivi la mort de Peggy. Son fils, Marcel, avait choisi de départager les textes et d'isoler le dialogue de l'histoire charnelle, qu'il avait titré « Véronique », selon une des propositions faites par Peggy, alors que Robert Burak, dans son édition des œuvres en prose dans la Pléiade, n'a pas retenu ce découpage-là et a privilégié plutôt Clio, le deuxième dialogue auquel il a emprunté des pages du premier. Donc ce sont des questions très complexes. Il n'empêche qu'il y a des pages à lire, quelle que soit la manière dont on choisit de les insérer dans un ensemble. Et il y a notamment ces fameuses pages sur la lecture comme achèvement de l'œuvre et la responsabilité du lecteur dans le couronnement ou dans la mise au rebut des œuvres. Comme si Peggy prévoyait ce que serait le destin de ses propres écrits, ses écrits inachevés, n'entrant dans aucun canon, aucun genre préétabli, et qu'il nous reviendrait de rendre lisible, ou tout simplement de lire. Il est effrayant, mon ami, de penser que nous avons toute licence, que nous avons ce droit exorbitant, que nous avons le droit de faire une mauvaise lecture d'Homère, de découronner une œuvre du génie, que la plus grande œuvre du plus grand génie est livrée en nos mains, non pas inerte, mais vivante, comme un petit lapin de garenne. Et surtout que la laissant tomber de nos mains, de ces mêmes mains, de ces inertes mains, nous pouvons par l'oubli lui administrer la mort. Quel risque effroyable, mon ami, quelle aventure effroyable et quelle effrayante responsabilité. Voilà, donc quand on travaille sur Peggy, on a forcément toujours à l'esprit cette responsabilité effrayante qui nous est confiée. Mais en même temps, c'est tout à fait exaltant. Alors, pour conclure, eh bien, je répéterai que les cahiers de la quinzaine me paraissent essentiels pour comprendre Peggy, sa vie, son œuvre, et pour aller contre les images toutes faites et les préjugés qui malheureusement continuent d'entacher cet auteur, bien que ce soit peut-être moins le cas grâce à tout le travail entrepris ces derniers temps. Cet aspect-là a été peu vu dans la réception de l'auteur. C'est une façon assez nouvelle de l'appréhender. Pourtant, ses amis, ses contemporains, y ont été sensibles, eux. Et on peut citer quelques grands noms qui, dès les années qui ont suivi la mort de Peggy, ont voulu lui rendre hommage en le reliant à son entreprise des Cahiers de la Quinzaine, notamment Daniela Levy, qui fait paraître dès 1918 un Peggy et les Cahiers de la Quinzaine, ou encore Julie Zahak, très proche de Peggy, qui écrit en 1960 « Expérience de ma vie, PEGI, où il est énormément question du PEGI des cahiers de la quinzaine, de l'histoire de la revue, etc. Et c'est le parti pris qu'adoptera Robert Burac dans l'édition des œuvres en prose dans la collection de la Pléiade, en 87, 88, 92, puisqu'il y a 3 tomes. Robert Burac, lui, a choisi de privilégier cette mise en avant des cahiers de la quinzaine comme écrin, en quelque sorte, des textes de PEGI. Et ce n'est pas un hasard si les PEGIistes de ma génération ont lu PEGI dans l'édition Burac. Au moment du centenaire de la mort de PEGI, en 2014, il nous a été demandé de remanier l'édition des textes poétiques qui faisait l'objet d'un tome à part. Et ça a été de mon ressort. J'ai fait ça avec toute une équipe. Nous ne pouvions pas aller contre la partition entre prose et poésie, puisque les tomes de prose étaient déjà faits et bien faits. Mais nous avons eu à cœur de relier ce versant poétique de l'œuvre de PEGI à ses œuvres en prose, de souligner les liens des textes et, autant que faire se pouvait, de mettre en avant la solidarité de tous ces écrits, différents par leur style, mais pas par leur inspiration, tous parus dans les cahiers de la quinzaine et tous plus ou moins écrits en même temps, imbriqués les uns dans les autres. Et de fait, même la poésie religieuse de PEGI est une poésie civique où le souci de la cité reste premier. La figure du saint a relayé celle du militant, mais dans une grande parenté. Et s'il fallait citer quelques vers de PEGI pour terminer cet exposé, je les choisirai dans la tapisserie de Sainte-Geneviève et de Jeanne d'Arc, qui date de 1912. C'est un texte certes moins connu que la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres ou que le Borge de Mystère de la Deuxième Vertu, mais c'est un texte qui manifeste cette solidarité des combats de PEGI et cette unité en quelque sorte d'inspiration à travers bien sûr des variations dans l'écriture. Quand PEGI met en avant les armes de Jésus, les armes, c'est-à-dire l'emblème de Jésus, voici en quels termes il le fait. Les armes de Jésus, c'est la fragilité, c'est la vertu civique et c'est la liberté, c'est la femme et l'enfant et c'est la pauvreté. Les armes de Jésus, c'est la simplicité, c'est la paix éternelle et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et d'efficacité. Les armes de Jésus, c'est la nécessité du travail et du pain et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de félicité. Les armes de Jésus, c'est la mendicité du dernier misérable. Et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de ténacité.